Une saison en théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Et si nous commencions cette nouvelle saison au théâtre par le commencement, si nous commencions par la répétition, par ce temps souterrain au cours duquel l'acteur petit à petit devient le personnage, ce temps d'avant où il teste, essaye, se trompe, cherche, teste encore et enfin comprend et trouve celui qu'il sera sur la scène. Notre invitée du jour, la comédienne Marie-Sophie Ferdan, ouvre avec nous une saison au théâtre, encyclopédie vivante du spectacle à la page R comme répétition. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année et nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi.
Bonjour Marie-Sophie Ferdan.
Bonjour.
Drôle de vie que celle de l'actrice qui, avant de monter en scène pour apparaître en pleine lumière, s'enferme des journées entières dans l'obscurité d'une salle de répétition pour travailler. C'est la vie que vous avez choisie. Est-ce que cette vie est hors de la vie?
Oui, et je me rends compte que c'est un choix. Peut-être qu'au début, on ne sait pas qu'on est en train de construire une autre vie à côté de sa vie. Et puis avec le temps, je me rends compte que le fait de s'enfermer, comme vous disiez, dans une boîte noire, comme dans une boîte crânienne aussi, et de refaire sa vie ou de retraverser la vie des autres à l'infini, c'est un choix qui prend votre vie, qui prend la place de votre vie.
Ça se superpose?
Ça prend la place.
Ça prend la place, c'est très fort de dire ça.
Ouais. Oui, c'est pas un constat peut-être léger, mais c'est... Vous vivez la vie des rôles que vous traversez dans le temps où vous devriez normalement vivre la vôtre. Et de fait, votre vie est constituée de tous les éclats des personnages, des rôles, des œuvres que vous avez traversées et les gens que vous avez rencontrés dans cet espace abstrait, obscur, une boîte noire, ont pris la place des rencontres réelles et des amitiés, des amours. C'est votre vie.
C'est un constat dont vous dites qu'effectivement, il n'est pas léger. Pour autant, est-ce que vous pouvez parfois en avoir du regret, Marie-Sophie Ferdan?
Non.
Non,
non, parce qu'il me rend heureuse et que c'est un choix que j'ai fait tôt et qui donne pour moi du sens à ma vie. Je suis heureuse dans cet endroit-là.
Revenons un petit peu en arrière. Là, vous êtes actuellement en répétition avec Arthur Nosiciel, avec qui vous allez jouer très bientôt, du 26 septembre au 5 octobre, sur les planches du Théâtre National de Bretagne, dans La Dame aux Camélias, qu'il met en scène. Il l'a adapté avec Valérie Imrejane, le roman d'Alexandre Dumas, fils. Et c'est d'ailleurs avec ce spectacle qui va vraiment inaugurer sa très belle direction du TNB. Premier jour des répétitions, jour 1. Qu'est-ce qui se passe le jour 1 des répétitions, Marie-Sophie Ferdan? Quand vous avez démarré au tout début, vous rencontrez vos camarades de jeu, vous avez votre texte à la main. Je ne sais pas si vous l'avez dans la tête, votre metteur en scène est là. Qu'est-ce qui se passe le premier jour?
Alors avec Arthur, c'est un processus particulier, parce qu'il a une façon de procéder qui est un peu unique. C'est le premier jour, on s'assied et on sait qu'on ne se lèvera pas avant 4 ou 5 semaines. Ce qui ne se passe pas toujours de la même façon. Souvent, parce qu'on s'assied, on se met à la table, tous autour d'une table avec les textes, et on lit. On lit, on relit, on lit d'autres œuvres, d'autres extraits, des choses qui nourrissent de manière parallèle ou sous-jacente. On analyse le contexte historique, politique, sociologique. Et puis, on repart à la recherche du texte, et c'est un travail assez singulier parce que la plupart du temps, vous vous levez au bout de... Enfin, chacun a sa méthode, mais des personnes que j'ai pu croiser, en général, au bout de 2-3 jours, voilà, il y a une sorte d'impatience, les jambes qui commencent à s'agiter, et on monte sur le plateau. Donc le temps de la lecture et du travail à la table est terminé, et puis on essaye de mettre en place les entrées, les sorties, les intensités, les valeurs de rapport entre les corps, Alors que chez Arthur, enfin dans le travail avec Arthur, tel qu'on a pu l'expérimenter dans La Mouette et tel qu'on va le refaire là, c'est d'abord le temps où on est ensemble à la recherche d'un sens, des sens. C'est comme de l'archéologie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être debout, c'est on plonge dans un texte et c'est une plongée plutôt cérébrale et sensible, mais pas, qui ne passe pas d'abord par nos corps.
Vous pratiquez une forme de spéléologie à l'intérieur de de la pièce, à l'intérieur du texte.
Ouais.
Qu'est-ce qui donne le là de la répétition? Est-ce que c'est le texte, l'acteur, le metteur en scène?
Avec le temps, je dirais quand même que c'est vraiment le metteur en scène, parce que c'est lui qui organise la cérémonie et le cérémonial autour d'un texte. Je pense que La Dame aux Camélias montée dans un autre contexte avec un autre metteur en scène, ça peut être raconté de manière très très différente. Là, sa façon à lui, très sensible et très presque oui poétique, de vouloir mettre les gens ensemble pour raconter cette histoire, ça n'appartient qu'à lui. Donc c'est vraiment ça qui donne le ton.
Je voudrais vous faire écouter, Marie-Sophie Ferdan, plusieurs archives, si on y arrive, dans cette émission, et notamment celle-ci. C'est une séance de répétition. Marguerite Duras fait travailler Michael Lonsdale. Il joue le vice-consul dans India Song.
Page 74 en haut.
Ah oui, sèche, stridente. Comment tu vois la voix stridente?
Impersonnelle. Fausse.
Oui, c'est, à un moment donné, il dit, vous voyez, comme ma voix, comme je parle faux. Je ne savais pas que vous existiez.
Et c'est de casser la syntaxe complètement. Il n'y a plus de virgule, plus de points.
Je ne savais pas que vous existiez. Calcutta est devenue pour moi une forme de l'espoir.
J'aime Michael Richardson. Je ne suis pas libre de cet amour.
Je le sais. Je vous aime ainsi dans l'amour de Michael Richardson, ça ne m'importe pas. Je parle faux. Oui, oh là là, c'est difficile.
Tu vois, oui, c'est très bien. D'arriver. Je parle faux, c'est qu'il s'entend lui-même.
Oui.
Il parle comme un sourd, qu'il s'entendrait à travers un appareil, tu vois.
Je vous aime ainsi dans l'amour de Michael Richardson, ça ne m'importe pas.
Oui, là tu approches de quelque chose.
Je parle faux, vous entendez ma voix? Elle leur fait peur.
Oui.
De qui est-elle? J'ai tiré sur moi à l'or sans en mourir. Les autres me séparent de l'or. Je ne m'en sépare pas. C'est moi, l'or. Vous comprenez aussi?
Oui, c'est peut-être ça, une voie de lecture complètement. Qu'est-ce qu'elle a autre possibilité, tu vois? Tu peux reprendre? J'ai pas d'idée moi-même là-dessus. C'est tellement... dur, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il parle et la seule fois.
Oui, il faut être une espèce de voix mal placée.
Tu as pris mon briquet.
Mal perché.
Oui, mais là, tu l'as déplacé très bien. Tu l'as placé mal, très très bien.
Incroyable, cet extrait, Marie-Sophie Ferdan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cette délicatesse dans l'échange. Et puis cette phrase de Marguerite Duras, je n'ai pas d'idée moi-même. Elle est l'auteur, elle est le metteur en scène. Et elle n'a pas d'idée. Est-ce que la répétition, c'est le moment où justement on peut avouer son ignorance?
Oui, je pense que c'est un peu une ruse.
Vous croyez?
Je sais pas, c'est fort d'entendre ces deux voix, parce que c'est parmi celles que je préfère entendre. C'est le hasard, ou je sais pas, mais elle avait écrit un texte qu'on peut trouver dans La Vie matérielle sur comment jouer Racine, qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai joué il y a longtemps en Bérénice. Elle expliquait que ça servait à rien, en fait, de jouer, de les décors, les entrées, les sorties, que ça servait à rien, qu'il fallait arrêter tout ça. Qu'elle voulait mettre les acteurs debout face à face au public, et puis qu'ils disent comme ça, comme ce qu'elle essaye de faire trouver à Lonsdale, hein, une voix presque blanche, une voix qui peut paraître fausse parce qu'elle a pas la musique de la vie, elle a pas les intonations de pour faire vrai, pour quand on anime une voix pour trouver des oh tiens je vous aime ah là là, non c'est pas la peine, elle dit juste dire des mots face à des gens qui sont là pour vous écouter. De toute façon, c'est un processus qui est tellement archaïque et qui a déjà tellement de sens en soi que c'est pas la peine. Quand elle dit qu'elle n'a pas d'idée, c'est que toute idée, vu son travail, dénaturerait ce rapport qui est presque, j'allais dire tribal, mais c'est transcendantal avec elle. C'est
marrant parce que quand vous dites on anime la voix et que vous animez votre voix, Marie-Sophie Ferdan, votre corps s'est mis en mouvement. Est-ce que animer la voix, c'est justement donner un corps à la voix?
Oui. Moi, j'ai eu un grand choc avec ma prof de chant il y a quelques années qui m'avait dit la voix est un muscle. C'est aussi simple que ça. La voix est un muscle et elle se travaille. On peut travailler sa voix comme on travaille un corps d'athlète ou pour une course, pour une endurance ou pour porter telle charge. On peut diriger ce qu'on veut faire jouer comme poids et comme puissance à sa voix. Vous voyez, donc quand elle m'a dit ça, je trouve qu'elle ouvre tout un univers parce que moi, elle parlait de chanter, chanter juste, chanter faux. Mais ça n'existe pas, ça. Tout se travaille, tout se construit. Donc je ne réponds pas du tout à votre question, vous avez
mais
vu.
C'est mais c'est pas grave, vous répondez très bien à une toute autre question. Il y a une chose que je me suis souvent demandée par rapport à la répétition. Est-ce que dans l'apprentissage du texte, et plus que ça, dans l'ingestion finalement du texte que doit opérer le comédien est au fond comme le petit enfant qui balbutie et tout à coup va apprendre à parler une langue. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du balbutiement? Et puis, soudain, le monde s'ouvre parce qu'on sait parler la langue, on a les mots et on sait les mettre dans le bon ordre. Marie-Sophie Ferdan.
Ça peut marcher, oui, ça peut marcher comme ça. Alors moi, je ne le voyais pas comme un enfant qui balbutie parce que l'acteur, quand même, son travail, c'est la langue, c'est d'apprendre cette langue. Donc il a peut-être une facilité à découvrir les langues rapidement, ou alors il est un peu polyglotte. Je verrais plutôt ça comme quelqu'un qui arrive dans un pays étranger. Mais ça revient au même, mais c'est plutôt spatial comme découverte et qui doit apprendre comment dans ce pays se construisent les maisons, comment vont les routes, quelle musique on y joue, comment les gens se parlent, comment ils s'aiment, comment ils se saluent. C'est pour ça que j'aime bien, quand je travaille un auteur, lire tout ce qu'il a écrit. Pas seulement l'œuvre sur laquelle je vais travailler pendant quelques mois, mais parce qu'il a écrit avant, après, parce que c'est la même langue, c'est toujours la même chose redéployée dans des atmosphères différentes. Mais c'est comme un mode d'emploi d'un monde dans lequel vous allez pénétrer et vivre un temps. Vous allez vivre un temps dans le monde d'un auteur. Et parfois, c'est plus simple de se promener dans les œuvres adjacentes parce que vous n'avez pas l'enjeu de comment je vais l'incarner. Vous allez, quand j'ai joué Bérénice, par exemple, j'allais faire un petit tour du côté d'Andromaque, parce que j'avais moins, du coup, la pression de comprendre absolument tout de suite Bérénice. Mais c'était bien de voir Hermione, c'était bien de sentir cette langue, mais déployée chez d'autres êtres. Donc c'est un voyage dans un autre monde, voilà.
C'est une imprégnation qui nécessite donc beaucoup de durée, une durée qui, finalement, si je vous entends bien, excède le temps de la répétition. Marie-Sophie Fernand,
c'est toute la vie.
C'est toute la vie.
C'est toute la vie. C'est la vie, c'est le jour, c'est la nuit, c'est les rêves. Mais c'est un plaisir, je le dis, parce que c'est une joie immense de pouvoir. Enfin, moi, je trouve que les auteurs sont des génies. Donc, on vous invite à une sorte de fête insensée d'aller dans un monde où l'on parle et on construit mieux que vous la vie. Donc, c'est une promenade.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
Voici une seconde archive dans cette émission. Marie-Sophie Ferdan, elle convoque à nos micros la figure d'une directrice de théâtre qu'on aime bien faire entendre dans l'émission. C'est la voix de Maribel, interviewée en 1971 sur l'acteur en répétition.
Il faut être maniable. À partir du moment où vous avez un metteur en scène, bon, il faut écouter ce qu'il vous dit, c'est normal. Maintenant, si vous n'avez pas très confiance en lui, si vous lui dites « Monsieur, ce mouvement me gêne, permettez-moi d'essayer un autre mouvement, j'ai l'impression que ce serait plus facile pour moi, je vais le faire, voulez-vous me dire si ça vous gêne ?» Ça, je crois que ça, on peut le faire. Ça devrait se passer comme ça.
Ça se passe comme ça avec les grands acteurs?
Ah oui,
ou pas?
Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Oui. Ah, les grands acteurs sont toujours très très facilement maniables. Sûrement.
Et les moins grands?
Quelquefois, ils sont plus difficiles. C'est pour ça que nous faisons répéter les acteurs, nous faisons signer les contrats définitifs que 6 jours après la 6e répétition.
Ah oui.
Et quand nous avons un doute, nous faisons répéter cet acteur avant, pendant 6 jours, assez longtemps. Et quand on voit qu'il peut le faire, il n'y a pas de problème.
On adore Marie-Belle dans cette émission, on ne peut pas s'en passer, c'est incroyable. Autrefois, en 1970, en tout cas dans ces théâtres-là, théâtres privés parisiens, on ne signait le contrat qu'au bout de 6 jours de répétition. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Marie-Sophie Ferdinand, rassurez-moi.
Non, si, ça existe encore.
C'est vrai.
Il y a un délai de rétractation, mais des deux parties. Je crois que vous avez une semaine d'essai mutuel pour savoir si on continue ou pas.
Est-ce que on peut entrer dans un état de grande souffrance, justement, si on s'aperçoit que ça ne colle pas avec et le metteur en scène et son esthétique et ses demandes, ses attentes, ou aussi avec un texte que peut-être, finalement, on n'a pas envie d'arpenter, comme vous le disiez tout à l'heure, tant que ça?
Alors, le texte, c'est de notre responsabilité, parce que quand même, on aurait pu le lire avant. Normalement, ça, c'est pas le vrai problème. Après, la rencontre, elle peut plus ou moins bien se faire. Moi, je pense que c'est lié à l'expérience. Moi, les deux ou trois fois pénibles dans les répétitions que j'ai pu vivre, c'était au début, quand vous ne savez pas, vous ne choisissez pas vraiment. Parce que l'histoire, c'est ça aussi. Au début, vous allez un peu là où on vous tend la main. Et après, avec le temps, vous êtes là pour des bonnes raisons, parce que c'est un vrai choix. Parce que normalement, si les choses se passent bien, vous avez le choix d'être là ou pas là.
Il y a des caps qui, invariablement, lorsque vous êtes en répétition et vous avez travaillé sous de multiples directions avec, à la Comédie Française, Christian Scaretti, Fausto Paravidino, Catherine Yeagel, et puis hors de la Comédie Française, Pascal Rambert ou Arthur Nosiciel, je n'en cite que très peu par rapport au nombre de metteurs en scène avec qui vous avez répété, Marie-Sophie Ferdinand, est-ce qu'il y a des caps invariables, vous concernant vous, que vous franchissez, que vous savez devoir franchir et que vous franchissez?
Dans le temps de la répétition?
Oui.
Disons que j'ai compris avec le temps que pour la ligne d'horizon, c'est le soir de la première, le jour où on rencontre le public. Et l'enjeu, quand on est peut-être tout début d'un parcours, quand on est jeune acteur, c'est que l'enjeu devient terrible, parce qu'on pense que c'est le soir de la première, on passe le cercle de feu et on réussit ou on rate. Avec le temps, ce que j'ai réussi à peut-être faire, c'est à éloigner la date de l'enjeu. C'est que chaque jour, chaque représentation continue, en fait, une possibilité de travailler, d'approfondir, de réparer des erreurs, d'améliorer. Et donc, il n'y a plus un enjeu strict. C'est drôle parce que c'est une émission sur la répétition. Et je me suis demandé, en venant, quand est-ce que ça s'arrête, la répétition? Mais vous savez, c'est comme les acteurs, les légendes américaines, des acteurs qui refont la scène comme après un tournage au cinéma. Où, si vous n'êtes pas satisfait de la scène à 16h, vous la continuez dans votre loge, vous la continuez dans le chemin du retour. Mais c'est la même chose avec le jeu, c'est qu'on continue la scène ou on continue à travailler en rentrant, parce qu'on peut à loisir convoquer l'imaginaire et continuer ce chemin qu'on a commencé. Et quand on se dit ça, il y a moins l'enjeu de l'urgence, il faut trouver vite, il faut être efficace. C'est pour ça que je vous dis, c'est toute une vie, c'est que moi je me dis pas, il faut faire vite et bien, je me dis c'est pendant un temps, je vais vivre avec ces gens et je vais vivre avec cette œuvre et ces mots-là. Donc je me donne pas de nécessité d'être performante ou efficace là, je me dis comment glisser ma vie dans ces pas-là, dans les pas de tous ceux qui ont traversé cette pièce avant moi, et puis dans faire connaissance avec ceux qui vont la traverser pendant quelques mois, et s'inscrire dans le temps, en visant aussi un avenir, un futur, une mémoire, puisqu'on n'est que dans la mémoire ensuite des spectateurs. Donc la répétition, elle s'est avec le temps mêlée au temps de la représentation, maintenant.
Une des questions que tout le monde se pose, c'est la question de la nouveauté qu'il faut garder. La répétition, c'est, comme son nom l'indique, le refaire. Mmh. On fait, on refait, on refait jusqu'à ce qu'on trouve. Comment, dans ces conditions-là, éviter de tomber dans le mécanique?
Et ben ça, par exemple, la méthode d'Arthur Nosiciel est assez forte, parce que dans un contexte comme ça, un peu classique, où, comme ça se passe souvent, on fait 2 jours de table et puis au bout du 3e, on commence à faire. On fait des scènes. Donc on les joue et très vite, le corps imprime une attitude, un jeu, un ton. Ah, voilà, on va rentrer à jardin, à cour, clac-clac, les portes claquent. Et puis on s'installe dans un système. C'est très dur de retrouver la vie et la vivacité et l'accident. Et même presque on le provoque, l'accident, le trouble, le doute, parce que sinon, au bout de la 50e, on se singe soi-même. Mais si vous êtes dans un rapport de recherche, pas de chercher mais jamais trouver, en fait, mais d'être dans un... que au temps présent, que dans le temps présent de la personne qui est en face de vous et qui doit dire ces mots-là à ce moment-là et jamais en fixant. C'est pour ça que ça fait très peur de monter sur le plateau au dernier moment, mais rien n'est fixé. Vous êtes chaque jour en train de chercher comment être au bon endroit. Et donc, le temps n'est jamais arrêté, parce que la place n'est jamais arrêtée. La place en vous, je veux dire, n'est jamais arrêtée.
On va écouter une toute dernière voix dans cette émission. Marie-Sophie Ferdan, c'est une actrice. Elle a rejoint la Comédie Française que vous avez choisi de quitter. Celle qui y est arrivée, c'est la comédienne Dominique Blanc. Elle répétait en 2013, là, l'eau qu'on dira.
Évidemment, rien n'est fixé, rien n'est arrêté, rien. Mais c'est une façon de commencer à s'apprivoiser les uns les autres. Et puis d'apprivoiser ce texte aussi, qui est loin d'être évident. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un moment où, franchement, le texte devient vraiment tellement de la matière vivante que soit il vous donne la chair de poule, soit des manifestations physiques, quoi. Où on en est piqué, où on en est blessé, mais c'est notre chair, hein. Moi, je le crois vraiment. C'est vraiment à ça qu'on s'accroche, dans les premiers jours comme on est maintenant. C'est aussi ce qui va créer les fondations qui vont nous permettre de jouer pendant un an. C'est quand même ça le défi qu'on s'est donné. Donc c'est beaucoup de représentation. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut beaucoup de sédimentation. Je crois que c'est indispensable pour avoir en scène, au premier jour comme au centième, non pas la même fraîcheur, parce que ça, c'est peut-être pas possible, mais en tout cas la même envie d'inventer. Et puis aussi l'envie de surprendre l'autre, de pas faire tous les soirs la même chose, ça aussi c'est le bonheur de la troupe.
Je reviens dans 15 jours.
D'accord, ça marche.
C'est Vincent Jossin qui s'apprêtait à revenir 15 jours plus tard, puisque c'est chez lui que nous avons trouvé cet extrait. Elle parle de la sédimentation pour nourrir les représentations Dominique Blanc. J'aime bien cette expression sédimentation. La répétition, c'est donc le combustible.
Oui, oui. C'est bien ce qu'elle dit. Elle parle bien quand elle dit « les mots sont notre chair », parce que c'est vraiment ça. Nous sommes faits des mots qu'on dit et de l'imaginaire qui naît de ces mots. C'est pour ça qu'on devient... Enfin, c'est drôle, on reprend votre première question. C'est une autre vie qui se construit à l'intérieur de notre vie, parce que ce ne sont pas nos mots, ce ne sont pas donc nos émotions, et on n'est pas traversé par les images qui nous traversent d'habitude. Et pourtant, se crée à la fin des répétitions et pendant les représentations, quelqu'un, quelque chose. Pour ça, sédimentation a la raison, c'est aussi, on n'est peut-être pas complètement que des gens, on est aussi un peu des choses étranges, qui sont faites de nos rêves, et de ce que notre imaginaire a créé à partir du texte des autres. Vous voyez, on revient encore à l'archéologie où on prend des choses mortes qui viennent du passé, des bouts d'étoiles éteintes, et puis on les fait revivre par notre voix, par notre imaginaire, par la chaleur de notre corps. Et pendant un temps, c'est nous qui brûlons de ce feu-là, pendant un temps court.
Qu'est-ce que vous gardez secret en répétition, Marie-Sophie Ferdan, qu'est-ce que vous gardez pour vous, qui est là et que vous ne dites à personne et qui vient vous aider, qui vous accompagne?
Mes rêves, parce que je crois que ça doit être commun à beaucoup d'acteurs, mais on commence à rêver. Bon, après, c'est des natures. Moi, je crois que je suis d'une nature rêveuse, donc je rêve à partir du réel, et puis je rêve à partir d'un texte qui est aussi un rêve, une sorte de rêve. Donc ça empile beaucoup les chemins de rêve. Le processus, c'est que vous rêvez à partir des gens que vous rencontrez. Et vous pouvez développer par l'imaginaire toute une forme de vie parallèle où vous pouvez recommencer à l'infini la nuit, le jour, des bouts de répétition, des bouts de texte, des bouts de comme des poèmes, mais que vous réassemblez dans votre cerveau, dans votre... Enfin, le rêve, c'est pas que du cerveau, c'est de l'épiderme aussi. Et puis... Après, vous revenez en répétition et les gens ne savent pas que vous avez autant rêvé d'eux. Ils savent pas qu'ils font partie de votre vie de manière aussi intime. Alors, ça crée toujours un espèce de décalage. C'est pour ça qu'il y a une sorte de secret joyeux. C'est que c'est même pas la peine trop d'en parler. J'imagine qu'au bout d'un moment, on fait tous la même chose. On projette sur l'autre et on l'utilise, le corps, la voix des autres acteurs qui s'invitent dans votre tête et qui créent le compost du jeu.
C'est fou parce que quand on vous écoute parler de ce moment-là particulier, très singulier, la répétition, Marie-Sophie Ferdinand, on comprend qu'il y a une imprégnation qui a presque une sorte d'osmose, de désir d'osmose finalement avec le personnage. Alors le personnage justement, la personne qui devient le personnage, c'est un lent processus, c'est à un moment donné un déclic, le miracle a lieu. Est-ce que vous arrivez à identifier, est-ce que vous avez pu parfois identifier ce moment où ça y est, vous étiez le personnage, vous aviez touché à la vérité du personnage,
alors,
Marie-Sophie Ferdinand.
Je sais pas, c'est compliqué le mot personnage. Moi, je sais pas quand je touche le personnage, mais 2-3 fois, j'ai su quand moi je disparaissais. Je sais, c'est pas exactement la même chose, mais je sais. Le personnage, surtout quand on, par exemple, la Dame aux Camélias, c'est issu d'une histoire vraie, Marguerite Gauthier, Alphonsine Duplessis. Donc elle a existé. Donc je sais pas, je ne peux pas être elle. Mais je peux, dans la recherche qui me mène vers elle ou vers ce qu'elle a inspiré, voir le moment où moi, j'arrive à m'abstraire. Pourtant, en étant plus que jamais là, parce que c'est ma voix, c'est mon corps, c'est mes qualités, mes défauts, c'est tout ce que chacun provoque en étant juste là. Mais c'est quand même un exercice de disparition. C'est pour ça, pour revenir à l'extrait que vous faisiez écouter tout à l'heure, Madame Belle.
Marie Belle.
Ouais, quand elle dit, il n'y a pas beaucoup de problèmes à un moment, c'est que si vous êtes d'accord pour jouer ce jeu, vous n'allez pas faire des faux problèmes avec des faux caprices ou des fausses exigences. Si on est là pour la même chose, et c'est pas une question d'ego justement, puisque c'est une disparition, c'est un exercice un peu de de muer, de transmuer, de disparaître. C'est un exercice volontaire de disparition pour faire naître quelque chose. Donc on est tous d'accord pour faire la même chose. Donc on va pas résister inutilement à l'endroit de soi.
Enfin, mais ce que vous nous racontez là, c'est de l'ordre de l'expérience, presque d'une expérience limite, Marie-Sophie Ferdinand.
Non, parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes pour jouer ce jeu. C'est comme jouer un peu avec le feu. Il faut être. Et puis ça demande un abandon. Donc il faut s'abandonner dans les bons bras. Et je pense que quand vous sentez que l'expérience ne va pas être sûre, vous plongez peut-être pas complètement. Il y a un documentaire qui s'appelle Jim and Andy, Jim Carrey, qui a incarné Andy Kaufman et qui a vécu pendant quelques mois une expérience limite. Regardez ça, pendant qu'il jouait, Milos Forman, le réalisateur, lui courait après. Parce qu'il courait après une créature, il demandait au personnage quand est-ce qu'il pourrait rencontrer l'acteur. Il revenait jamais lui-même, il restait. Ça, c'est une expérience limite et il y a laissé sa santé. Hein.
Merci mille fois.
Merci.
Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.
Nous viendrons voir La Dame aux Camélias d'après Alexandre Dumas au Théâtre National de Bretagne dans la mise en scène d'Arthur Noziciel qui ouvre donc avec ce spectacle sa saison 2018 du TNB. Ce sera du 26 septembre au 5 octobre. Puis le spectacle part ensuite pour une très longue tournée. On le verra à Sceaux près de Paris en octobre. Il finira à Marseille en mai 2019 et entre temps il se balade dans énormément de villes. Tous les renseignements seront sur le site. Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Tu restais là.
Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.
Inès Duperron, Bruno Gagnère, Fontani, Vanessa Nadjar et Joël Gaillot vous saluent. Ne quittez pas France Culture, bientôt 16h. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
Sur ce clavier, c'est joli, j'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce ce rôle sophistiqué qui étonnait même les Anglais.
Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver